La chronique d'aujourd'hui s'intitule Les dalles du cloître. Le mot cloître appartient à la même famille que le mot clé. Les moines se sont mis sous clé pour préserver la qualité de leur recueillement. Mais, aujourd'hui, bon nombre de cloîtres sont en déshérence. Les moines et les moniales les ont quittés. Le badaud que je suis peut y promener son pied profane. Lorsque j'entre dans l'un d'entre eux, j'ai l'impression de me trouver dans une coquille vide, comme celle d'un escargot qui a quitté son domicile. Les portes se sont ouvertes et les courants d'air ont éteint la flamme de la contemplation. Quelque chose s'est irrémédiablement perdu. Sont les hommes et les femmes qui l'animaient, ce qui était un lieu de méditation est devenu un lieu de récréation. On vient ici pour l'intérêt historique, en oubliant de quelle ferveur cet espace était la source. La curiosité du visiteur est satisfaite, mais le champ s'est tu. L'espace est sans passion. Ce qui serait à voir est précisément ce qui échappe au regard. Ainsi va la vie. Les refuges sont rares et précieux, toujours menacés, toujours à défendre. Je m'accroupis pour caresser les doigts, les dalles du bout des doigts, comme un parchemin silencieux. Elles ne sont plus plates. Elles sont doucement vallonnées, sans heurts, par la méditation et la prière. La prière inscrite dans la pierre. J'essaye de m'imaginer à quoi ils pensaient en venant marcher dans le cloître. Quel était leur état d'esprit? Je ne doute pas que certains devaient se demander ce qu'il y aurait à manger après les vêpres, et il suffit d'avoir goûté les repas d'un monastère un peu cossu pour le comprendre. D'autres devaient marcher pour laisser une parole des évangiles prendre corps, tandis que celui-ci réfléchissait à un entretien qu'il aura eu avec un visiteur venu pour déposer un souci trop lourd et se ressourcer. Et tous ces murmures intimes, faits de désirs, de doutes, d'espoir, de tristesse et de joie, ont laissé une trace toute simple, celle du pas du moine, qui, comme le ressac des vagues, a poli la roche. Un rayon de soleil vient en éclairer la surface rosée, comme une aube, et je vois se dessiner des formes sur la pierre, comme dans les nuages. Non, les signes ne sont pas dans le ciel, ils sont humblement inscrits au ras du sol, dans l'empreinte laissée par des marcheurs inspirés. Dans leur foulée, je me sens convié à plus d'intériorité, de paix, et je songe, en faisant quelques tours du cloître en silence, que nous avons tout à gagner de nous inspirer de leur exemple. Je ne doute pas que les vertus qu'ils cultivent avec tant de soin peuvent nous permettre de progresser sans avoir besoin de chercher des maîtres dans un Orient lointain. Oui, puissent les moines et les moniales continuer à déambuler silencieusement sur ces dalles qui rêvent pour l'éternité. Je suggère au lecteur, pour faire un pas de plus, de lire l'ouvrage de Bernard Besseret, Du bon usage de la vie. Je vous lis rapidement la notice de l'éditeur qui est très claire. Fort de son expérience de théologien et d'ancien prieur pour l'abbaye de Bocken, mais loin des églises et des logiques dogmatiques dont il s'est définitivement détaché, l'auteur de Confiteor nous livre ici un véritable manuel de sagesse laïque. Plus de 20 ans de vie monastique, écrit Bernard Besseret, m'ont donné la conviction que celle-ci recèle, derrière ces murs de clôture et ces anachronismes, derrière ses vêtements et ses horaires d'un autre âge, des trésors qui ne lui appartiennent pas en propre, mais qui appartiennent au patrimoine de l'humanité. À ses yeux, chacun de nous a vocation à devenir moine, afin que le pluriel qui l'habite cède peu à peu la place à l'un qui le fonde. Cette réflexion, approfondie sur les éléments fondamentaux de notre condition, nature et culture, santé et maladie, rêve et sommeil, parole et silence, mort et souffrance, nous ouvre la voie d'un élargissement de la conscience par l'exercice d'une vigilance intérieure au quotidien. De quoi prendre les meilleures résolutions qui soient pour 2013.